par Jeanne-Martine Vacher.
Depuis que j'avais l'âge de mon fils qui a 5 ans, je dirigeais des orchestres. Imaginez, quand j'étais petit comme ça, et j'ai une vieille cousine de ma mère qui m'a vu il n'y a pas longtemps, et m'a dit, tu te rappelles Léo? Alors tu étais là, dans la rue, et puis tu dirigeais comme ça l'orchestre. Moi j'avais jamais entendu de la musique pratiquement, quoi. Tu dirigeais et tu disais, ah, toi t'es le tambour, alors c'est pas comme ça qu'il faut jouer. Alors j'allais à sa place, j'ai dit, regarde, et puis je jouais le tambour, mais tout ça, j'étais tout seul, n'est-ce pas? Et c'est significatif, parce que j'étais vraiment seul à faire ça, et je pensais que tous les garçons, tous les gens chantaient aussi à l'intérieur. Et un jour, je me suis aperçu que moi, je chantais, que forcément les autres ne chantaient pas, et que j'étais un peu à part, quoi. Et ce jour-là, je me suis caché, j'ai eu un peu honte, vous savez. Un jour, j'étais dans un collège, et ma mère est venue me voir un jour, venait me voir de temps en temps, et m'a amené dans une petite crèmerie. Et elle, dans cette crèmerie, il y avait un peu, je me donnais du chocolat soufflé, le cappuccino, on dit ça en Italie. Et au collège, il n'y avait pas du chocolat soufflé, c'était pas très bon, parce qu'on avait du café un peu anonyme, comme ça. Alors quand elle venait, ce chocolat, c'était extraordinaire, c'était le grand cadeau. Et alors, de cette boîte électrique, c'était une des premières radios, sort quelque chose d'incroyable. Au moment, c'était le début de la 5e symphonie de Beethoven. Et j'avais 9 ans et demi, je me suis mis à pleurer. Et ma mère m'a dit, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit, parce que tu vas t'en aller tout à l'heure. Et c'était pas vrai. Je pleurais pour la musique, et j'ai eu honte. Et j'ai pas osé lui dire.
Avec lui aujourd'hui, souvent la musique nous prendra comme l'amour. Les vendredis de la musique numéro 30, Léo Ferré, poète, vos partitions.
Tu chantais, et tu pensais qu'Egmont, c'était la mer, le drame, les larmes, la beauté de cet instant fabuleux de solitude exaucée. Tu l'avais dit, et tu l'avais crié à ce prof impotent du verbe et de la grâce. Et tu t'étais caché, parce que tu étais seul au monde, évaincu, étrinçant contre l'imbécilité, secouru et protégé par la loi et par le nombre. Depuis, Egmont me remonte comme la mer, après ses descentes, la nature fidèle. Egmont, comme une source bienheureuse et coulante, comme une génération toute entière de bienfaits uniques, parce que tu es l'unique, parce que je t'ai donné l'unique. Et ce temps qui s'est arrêté au bout de la seule invention de l'homme, devine.
Voilà, on commence d'une façon détonnante. Quel mélange de Léo Ferré et Beethoven, l'ouverture d'Egmont. Donc entre mots et musique, entre poésie et harmonie, nous avons rendez-vous cet après-midi avec un poète musicien. Et c'est bien le moins, puisque sans doute nos auditeurs qui ne sont pas avec nous l'entendent dans le bruit, la musique de fond, allons-nous dire, pour positiver les choses, de ce salon de la musique ou de le salon du livre où nous sommes en direct, donc avec des passionnés et de poésie et de musique et de Léo Ferré, bien sûr. Jocelyne Sauvard, écrivain, journaliste, nourrie, habitée par Léo Ferré, puisque elle sort tout juste en ce moment un nouveau livre qui s'appelle Léo Ferré, un artiste vit toujours demain, chez Mélis, avec un musicologue passionné de Ferré, de chansons et de pédagogie, Gérard Hotelin, et avec un comédien, Emmanuel Depoix, qui nous fera le plaisir de nous lire du Léo Ferré. Alors, lire, justement, tout son corps est dans la musique, sa voix monte, plane, la tessiture est primordiale. Il l'a expliqué à la radio, il a parlé de la poésie qu'il met en musique, une fois, il regarde le troisième fauteuil du premier rang et c'est moi qui suis dedans. Et c'est vous qui étiez dedans, Jocelyne Sauvard. Vous avez passé au fond une vie presque entière. Elle n'est pas finie, Dieu merci. Mais en tous les cas, depuis enfant, vous avez eu cet amour de Ferré.
Oui, depuis la petite enfance. En fait, j'ai été bercée à la poésie de Léo Ferré, à ses chansons, à sa musique, depuis toute petite. Et puis en plus, il faut dire que j'habitais le même quartier que lui, alors ça rapproche, parce qu'on sortait les chiens ensemble, il était loin, le musicien, je le voyais passer dans le 17e arrondissement, il rentrait à Perchigne et moi à Carnot, avec mes parents, ma famille, mon chien, voilà. Et donc, je le suivais par la radio, par les disques, et puis très vite, comme tout le monde le chantait à la maison, et que tout le monde allait le voir dans les cabarets où il se donnait, l'Arlequin, la Rose Rouge, l'Écluse, etc. Moi, je n'avais pas encore l'âge d'aller au cabaret, mais très vite, dès que j'ai pu, je suis allée l'écouter au Music Hall. Alors ça a été Bobino, ça c'était le troisième fauteuil, c'était à Bobino. Et ensuite, il est monté sur le podium après le spectacle et il a dédicacé ses disques. Voilà. Et donc évidemment, il n'était pas question que je demande une dédicace ni une signature. Mais voilà, donc cet homme extraordinaire, cet artiste, ce musicien, ce poète, il s'est... exprimé comme ça pendant, on va dire, au moins 50 ans. Il a fait du spectacle pendant au moins 50 ans et à chaque fois, il a amené la poésie et la musique. Et...
Je vous coupe parce qu'il faudrait peut-être qu'on fasse un petit point pour tous ceux qui ne connaissent... On croit connaître, au fond, Léo Ferré, bon, cette espèce d'immense poète, musicien, mais finalement, on ne connaît pas si bien que ça, sa vie. Et peut-être, si vous le voulez, nous pouvons poser ses racines. Hein. Oui. Et le mot, ça serait le Sud, déjà.
Exactement. Ce n'est pas la Seine, comme on pourrait le croire, c'est le Sud. Il est né à Monaco le 24 août 1916, donc pendant la Grande Guerre, mais la guerre, on ne la voyait pas. Dans le Sud, on voyait du bleu et quelques femmes en noir. Et puis... à 7 ans, il n'écrit pas des romans sur le grand désert, mais il intègre la maîtrise de la cathédrale de Monaco. Et c'est la seule occasion de faire de la musique, chanter ou alors aller à la messe. Et donc il chante, il est soprano. Et puis de la musique, il n'y en a pas beaucoup à la maison. Il n'y a pas de cours de musique, mais il y a un piano. Cet objet merveilleux, fascinant, qu'il caresse du bout des doigts, qu'il essaie un petit peu. Mais son père, Joseph Ferré, a déclaré que la musique et le piano en particulier, c'était pour les filles. Donc c'est pour la sœur Lucienne. Alors Léo Ferré, il va être envoyé en pension pour 8 ans, dès l'âge de 9 ans. Et cette pension, elle se dresse, elle dresse au mur au milieu des bougainvilliers à Bordighera. Sur la Riviera italienne, à 25 km de Monaco. Pour lui, c'est une immensité à traverser. Pour lui, c'est un exil. Pour lui, c'est une prison. Et vraiment une complète mise à l'écart pendant 8 années. Mais là, à Bordighera, tout de même, il y a la musique, parce qu'il y a quelques instruments. Et puis aussi, eh bien, il y a l'harmonie et le jeu du piston.
Puis il y a aussi des grandes rencontres musicales qu'il fait à Monaco, à l'opéra. Voilà. Des gens importants qu'il va voir.
Oui, à l'opéra, il a un oncle qui est violoniste, donc il a ses entrées à l'opéra. Et là, il va écouter et rencontrer Ravel. Il va être complètement balbutiant et fasciné par le concerto pour la main gauche. Et puis, il va rencontrer aussi Toscanini, dirigeant, devinez quoi, Coriolan. Donc, Beethoven, déjà, ça s'inscrit dans...
Et la direction d'orchestre, parce qu'on va voir que ça a été très important pour lui.
Voilà, très important. La recherche de toute sa vie.
Et cette, on entendait là cette archive où il parlait de ce bouleversement avec Beethoven dont il a honte puisqu'il ment sur ce bouleversement. Ça veut dire que très tôt finalement cette vocation musicale est là, présente, et la vocation poétique. Alors l'écriture, comment vient-elle ?
Mais ça vient de pair. En fait, la vocation musicale est là, permanente dans la tête avant d'être né, j'oserais dire, enfin en tout cas tout petit. Et puis effectivement, il s'en cache comme vous l'avez dit. Et puis la poésie, ça vient tout de suite, la découverte des poètes. Évidemment, c'est pas en classe, c'est pas avec les frères des écoles chrétiennes, comme il le dit avant son tour de chant. Il dit la poésie, Baudelaire, Rimbaud et les frères des écoles chrétiennes, ça les intéressait pas. Donc c'est tout seul qu'il va découvrir la poésie dans les grandes librairies de Nice, les rares fois où il y va en vacances, ou bien avec des copains comme ça, donc Verlaine, Rimbaud, Baudelaire et François Villon. Et puis plus tard, vers 11 ans, il va écrire déjà la partition musicale de Soleil couchant de Verlaine, et qu'il reprendra 40 ans plus tard, sans presque la changer. Et puis, ensuite, la poésie, il va la découvrir tout seul, dans son lit, dans son dortoir, et puis plus grand quand il va avoir passé son bac et qu'il va arriver à Paris, il va continuer à lire les poètes. Et ce sera toujours comme ça quand il créera Léo Ferré. Le piano, le chien sous ses pieds, la partition.
C'est chien qui s'appelait Egmont et Arkel. Alors, oui. Arkel, personnage de Pélias et Mélisande, Egmont, encore Beethoven.
Tout à fait. Voilà. Arkel, c'était le Saint-Bernard. Donc, le chien est là. Il fait partie de la composition, bien sûr, parce qu'il écoute. Et puis, alors, le recueil de poèmes sur les genoux et la main qui touche et la musique naît sous les doigts immédiatement. Et si elle ne naît pas, il passe une page, il va à un autre poème et la musique doit naître encore une fois immédiatement. C'est comme ça la création, et il le dira, c'est pas la peine de me demander comment je crée, ça se fait comme ça. Plus tard, avec Aragon, il dira, j'ai lu Aragon avec mes mains enchaînées au clavier. Et immédiatement, les poèmes d'Aragon devenaient des chansons.
Et bien alors la musique, c'est tout de suite.
Tous ces cris de la rue, ces mecs, ces magasins où je te vois dans les rayons comme une offense, aux bijoux de trois sous, aux lingeries de rien, ces ombres dans les yeux des femmes quand tu passes, tous ces bruits, tous ces chants et ces parfums passants, quand tu t'y mets dedans, quand je t'y exile, pour t'aimer de plus loin comme ça en passant, tous ces trucs un peu dingues, tout cela c'est ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. Ton style, c'est ma loi. Quand tu t'y plies, salope, c'est mon sang à ta plaie. C'est ton feu à mes clopes. C'est l'amour à genoux et qui n'en finit plus. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. Et puis qu'on ne veut plus, dès que tu me fais signe au coin d'une réplique, enfoncé dans ton bien par le sang de ma grappe et le vin de ta vigne, tout cela se mêlant en mémoire de nous, dans ce monde perdu de l'an 80 000, quand nous n'y serons plus et quand nous renaîtrons, tous ces trucs un peu flous, tout cela c'est ton style. C'est ton droit, quand j'ai droit à ton style, c'est ce jeu de l'enfer, de face et puis de pile, c'est l'amour qui se tait quand tu ne chantes plus. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul.
Léo Ferré, 1971, ton style, c'est lui qui dirigeait l'orchestre, et c'est un disque Barclay, Jocelyne Sauvard. C'est vous qui avez voulu entendre ton style, pourquoi ?
Eh bien, parce que ça, c'est la renaissance de Léo Ferré. Donc, c'est quand il est devenu Léo. C'est à partir du 10 mai 68, après le drame que l'on sait d'avril 68.
Donc, on ne sait pas nécessairement, on va peut-être juste
voilà.
dire ce que c'est.
Et donc, à partir de là, il est devenu un autre homme, un autre artiste, et il s'est adressé à la jeunesse.
Attendez, parce que vous dites qu'on sait, mais nos auditeurs ne savent pas nécessairement. C'est qu'il y a deux vies. Il y a cette première vie avec sa première épouse,
oui,
Madeleine,
voilà.
Et puis il y a cette séparation dramatique en 68.
Voilà.
Et là, cet homme renaît d'une certaine façon.
Il se ramasse et il renaît. Et il vient à Paris à la Mutualité. Il décide que la Mutualité, c'est des places à 10 francs pour que tous les mômes puissent profiter de la musique et de la poésie. Et puis, c'est là qu'il donne Les Anarchistes. Et dans les années qui suivent, à partir de 68 jusqu'à, on va dire, 73, ce sont ses grandes chansons. Alors, Ton style, C'est extra. Et
C'est extra succès extraordinaire.
Extraordinaire.
Des millions de disques.
Ah oui, il a battu les Beatles au hit parade. Bon. Et alors, Ton style, c'est vraiment le synonyme de la liberté et de cet amour fou qu'il chante depuis les années 50, mais qui cette fois a pris un autre tour parce que c'est une espèce de d'hymne à l'amour et en même temps d'hymne à la femme, et qui est à la fois et en général dans les œuvres de Ferré est adulé et repoussé.
Oui,
comme
parce que c'est extrêmement violent quand même. C'est un hymne très ambigu.
Voilà, c'est un hymne ambigu. Alors c'est un hymne, comment dire, très à la fois très sexuelle et en même temps la femme est l'amante et la mère, et la mère, M-E-R aussi, et l'eau, et également la mort. La femme est tout ça dans l'art.
En quoi il est très traditionnel, hein, parce que là, à travers les siècles, il n'est pas le seul dans ce...
Mais il y met une...
C'est pas franchement un révolutionnaire. Là.
Alors, mais il y met une pointe à lui, et il décrit la femme aussi bien dans sa toilette, dans sa vêture, mais sans la peur des couleurs, comme cette peur des couleurs est arrivée dans ces années 65-68 et qui perdure aujourd'hui. Et il y met aussi un érotisme en même sens autre chose, parce que cette femme dont il parle, qui l'interpelle, en fait, est-ce que c'est la femme, est-ce que c'est la poésie, est-ce que c'est la musique, ou est-ce que c'est un mélange des trois?
Alors, cette carrière de Léo Ferré, dans un premier temps, si on ne s'y plonge pas, on a l'impression que ça a été, bon, cette espèce d'immense artiste reconnu. En fait, ça a été plutôt d'abord une conquête sur lui-même, parce que vous expliquez, donc, dans votre livre, Jocelyne Sauvard, Léo Ferré, un artiste vit toujours demain, que lui-même, il a fallu qu'il conquière cette capacité à être sur scène seul, hein. Vous dites, il a mis 20 ans. Mmh. Après, il y a eu cette grande reconnaissance dans les années 60. Mmh. Il y a eu 68. Et après, ça a été un homme contesté très violemment, parfois, quand il était sur scène. Donc, c'est une carrière en dents de scie avec beaucoup de violence et de haut et de bas.
Avec beaucoup de violence. On l'a attaqué. On lui a demandé des comptes toute sa vie. Quand il chante en 61, on fait un petit bond en arrière. File-moi ta part, mon petit Youssef, sinon je te branche sur les DF. Que fait-il? Il dénonce la torture en Algérie. Hop, aussitôt, on a une bombe dans le hall de l'Alhambra.
Contradiction, si je puis me permettre, ou en tous les cas, position paradoxale, il refuse de signer le manifeste.
Le manifeste des 121.
Voilà.
Parce qu'il dit, moi, je ne signe pas dans un bureau, je chante. Chanter, c'est manifester. Et il le chantera toute sa vie. Et d'autre part, quand le succès venant avec les poèmes d'Aragon, etc., on l'attaque sur son mode de vie. On lui demande de rendre des comptes, mais sous par sous, sur ses revenus. Alors que pour les autres musiciens, les autres chanteurs, pas du tout. On est très fiers qu'une vedette ait un certain train de vie. Lui, c'était un train de vie à part, un vieux château qui avait besoin d'être restauré au milieu des bois. C'était complètement à part. C'était quelque chose de différent. C'était du Léo Ferré, quoi. Voilà. Mais on lui demande des comptes et on lui en demandera même en Toscane quand il a sa maison, sa famille, ses olivions, tranquille comme tout, et qu'il compose tranquillement. On vient le chercher, on vient le harceler, on lui demande
mais
encore...
Mais c'est peut-être aussi lié à la force et à la puissance de sa parole.
Oui.
Donc, du coup, on attend en retour quelque chose peut-être d'aussi fort dans les actes. Et c'est vrai que peut-être... Je dis ça vraiment sans porter de jugement, je ne connais pas suffisamment sa vie, mais il y a peut-être moins de cohérence dans la vie de Léo Ferré qu'il y avait dans celle de Ferrat qui vient de disparaître, qu'il y a eu une espèce, parce qu'il y a eu un Léo Ferré star, il y avait, Léo Ferrat a lui rejeté plutôt, il est parti, il a refusé le système quand même.
Léo aussi, c'est lui qui a écrit « Je suis une idole ». J'arrive à 8h15, je fume une clope en lisant le courrier, etc. Je suis une idole, sous-entendu, je suis bien seule dans ma loge, etc. Et puis il a été star quelques années, mais il a été une star très très fraternelle, et ça a été cohérent du début jusqu'à la fin, puisqu'il a imposé les places à 10 francs, et ensuite à la fin de sa vie, quand il a fait toutes ses tournées du nord au sud et partout, il passait même dans les MJC, et surtout dans les MJC, parce qu'il voulait aller porter la musique partout au fin fond de la Bretagne ou en Corrèze, je ne sais où, et il voulait aller porter les poètes là aussi. Eh bien, on l'a attaqué. Pourquoi est-ce qu'il passe pas dans les grandes salles? Et pourquoi est-ce qu'il répond aux correspondants locaux et non pas uniquement à Paris Match? Enfin, c'est inouï.
Alors, Jocelyne Sauvard, je vous coupe parce qu'on a bien compris que vous pourriez défendre Léo Ferré des nuits, des jours, des mois entiers. Alors, on va écouter justement Léo Ferré lui-même sur un thème qui est encore quelque chose de très violent, qui est encore de l'ordre de la frustration et de la souffrance. C'est comment il n'a pas été reconnu comme compositeur. On va en parler avec Gérard Hotelin de Ferré compositeur, mais on va l'écouter lui raconter ses aventures avec sa partition de son oratorio La chanson du mal-aimé, inspirée évidemment par Apollinaire. Léo Ferré.
J'ai mis en musique la chanson du mal-aimé de Guillaume Apollinaire. J'ai mis un an à écrire ça. Et comme je ne savais pas comment me faire jouer, parce qu'il y avait un grand orchestre symphonique, je connaissais M. Gilson, qui était un poète, qui était aussi un fonctionnaire. Et je suis allé le voir, qui était directeur des programmes, c'était un monsieur très affable, très gentil. Je suis allé le voir, et il m'a dit, vous savez, je ne peux pas prendre ça sur moi, nous allons faire descendre le comité. Alors il a fait descendre un vieux monsieur, qui était un ancien altiste dans un quatuor perdu, je ne sais où. Et ce monsieur est arrivé, a dit, oui, d'accord, je suis le comité. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que le comité? Il m'a dit, monsieur, le comité, c'est la musique. Alors je me suis levé, et j'ai quitté Gilson, et j'ai dit, je rejoins Apollinaire, qui n'a pas voulu monter. Et d'ailleurs, 6 mois après, on m'a rendu ma musique avec des qui n'avait pas été lue parce que méchamment j'avais collé des pages, n'est-ce pas, avec du scotch. Alors elle n'avait pas été lue. Alors on m'a rendu cette musique et je pleurais dans la rue parce que j'estimais que c'était mauvais. comprenez, je croyais que le comité de la musique était vraiment la musique, n'est-ce pas? Et alors, quand je suis rentré chez moi, j'ai vu qu'on n'avait pas lu la musique. Bon, tant pis. J'étais dans une maison où je chantais des chansons qui s'appelaient la maison Odéon. Et je devais renouveler le contrat. Et au lieu d'avoir de l'argent pour renouveler le contrat, j'ai dit, enregistre-moi cette musique. J'ai dit, et enregistre-moi cette musique sous ma direction avec l'Orchestre National de la Radio Française. Ça s'est fait en 57. Eh bien, vous me croirez, si vous voulez, la chanson du mal-aimé, même cette année, où il y a eu le cinquantenaire de la mort d'Apollinaire, où il y a eu toute une journée consacrée à Apollinaire, depuis 10 ans, on n'a jamais passé la chanson du mal-aimé de Guillaume Apollinaire mise en musique par moi. Alors ça doit être très mauvais.
Chanson du mal-aimé, une interprétation, donc celle dont il parlait là, à l'instant sur cette archive, 1957, c'est un disque colombien avec Nadine Sotro, Camille Moran, Michel Roux. Et si je cite ces noms, d'abord c'est parce que ce sont les interprètes, mais parce que ce sont aussi les interprètes de Debussy à la même époque, et que Gérard Hotelin, quand on entend ça, on a l'impression qu'on est chez Debussy, non?
Ah, tout à fait. Chez Debussy, chez Ravel et chez quelques autres, quoi. En ce sens que il faudrait avoir la possibilité, mais on l'évoquera plus loin quand on écoutera Requiem, parce qu'on a eu la chance, à une époque plus tardive, d'avoir la partie orchestrale complète de Léo Ferré sur des pièces qu'il ne pouvait plus enregistrer parce qu'il s'était mis en délicatesse avec son producteur, la maison Barclay. Et c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que les pièces orchestrales, que la composition elle-même tient parfaitement, même si on n'a pas le support de la voix, du souffle verbal qui donne tout le sens à l'oratorio ou à la chanson.
Alors, il y a cette fascination pour l'orchestre de Léo Ferré, d'abord en tant que chef, hein, parce que c'est quelque chose qu'il a adoré faire. Il y a énormément de témoignages où il dit son envie de diriger, son envie d'avoir un orchestre. Et puis, il y a donc l'orchestre comme instrument.
Comme matière.
Comme matière, voilà. Quel rapport dans l'écriture? Comment vous voyez cette écriture de Léo Ferré en tant que compositeur, alors, pour le coup?
Alors, il en a parlé, lui, et ça, il a fait un livre qui est très intéressant parce qu'on y trouve beaucoup de ses fonctionnements et de la manière dont il s'y prend. C'est ce fameux livre qui s'appelle La musique souvent me prend comme l'amour. Et ce livre, en plus, ce sont des émissions de radio, un peu comme celle de cet après-midi. Et pendant Pendant plusieurs années, il a ainsi commenté des pièces musicales, il a évoqué des auteurs, des compositeurs. Alors c'est passionnant parce que quand on lit ce livre, on a malheureusement plus ça dans l'oreille maintenant, mais au fond, il parle des compositeurs, certes, mais il parle de lui-même d'abord.
Il parle aussi bien de Palestrina que de Mozart, que de Beethoven.
Absolument, y compris des plus contemporains, pour lesquels il n'avait pas forcément une grande amitié.
Et ça, je peux me permettre juste de vous arrêter là-dessus, parce que c'est un point intéressant. On a toujours tendance à penser que les gens avec des engagements politiques très révolutionnaires le sont en art, et ça n'est pas nécessairement vrai. Et lui avait horreur de l'avant-garde qui était ses contemporains.
Oui, mais alors, il faut bien savoir pourquoi, et je crois que ce que disait Jocelyne Sauvard tout à l'heure est tout à fait significatif, et notamment dans son itinéraire, c'est que c'est un lyrique. Et que quand il parlera des compositeurs, c'est un peu ce terme lyrique qui revient souvent sous sa plume. Parce que derrière le lyrisme, c'est pas simplement le romantisme, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est d'abord une notion de souffle. Et si on parle tout à l'heure de la manière dont il écrivait des mélodies, c'est pas simplement écrire des notes qui vont se suivre, et comme on dit vulgairement, une chanson, c'est une mélodie sous quelques phrases, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est d'abord un souffle, c'est d'abord une ligne, et quand Léo Ferré écrit, il a une ligne qui tient jusqu'au bout, et ça c'est très important, et ça c'est le lyrisme même, avec cette espèce de souffle, de passion, d'entièreté dans ce qu'on dit et dans la manière de le projeter, qui est très intéressant.
C'est-à-dire, est-ce que c'est très lié à sa propre façon de proférer, de déclamer,
parce bien sûr, c'est le sens du verbe qui est profondément en lui, et alors du coup c'est intéressant de rapprocher cela de la composition, parce que l'acte de composer, c'est tout à fait différent. On est dans une solitude très grande. Et lui-même le disait dans une émission de radio, je ne sais plus à propos de qui, mais il disait, l'orchestre, c'est d'abord pour le musicien, une grande page blanche avec 30-40 portées, et rien de plus. Dans le silence de sa retraite créatrice, que ce soit dans sa tour d'ivoire ou dans la rue, que peut-il bien entendre le musicien dans sa tête? Qu'entend-il dans sa tête le musicien? Quelques harmonies, un ou deux souvenirs de bois, de cuivre et de cordes, et beaucoup d'amertume de ne pas posséder dans sa conscience un pick-up personnel lui permettant d'écouter son imagination. Et c'est important parce que, bon, aujourd'hui, il y a les enregistreurs, il y a les Walkman, tout ça, mais je ne crois pas forcément que ce soit une aide, parce qu'il y a toujours cet accouchement qui est très difficile, et vous le disiez tout à l'heure très bien, quelques notes au piano qui font surgir la musique du poème d'Aragon qu'on est en train de lire. Et c'est ça qui est la grande difficulté. Et en plus, quand on lit sa démarche de composition, on s'aperçoit qu'il a composé, il le dit lui-même, qu'il a composé d'ailleurs des musiques et qu'il cherchait au piano. Et on s'aperçoit que la manière dont il composait, c'était bien au piano, parce que très souvent, il y a sinon des schémas, mais il y a des procédures qui reviennent très souvent. Et vous avez bien fait de passer ton style tout à l'heure, je ne savais pas que vous passeriez cette musique. Mais alors c'est typique, parce que j'ai entendu que tout à l'heure on lirait, mais il y aura peut-être la musique aussi, je ne sais pas, la mémoire est la mère, il n'y aura que le texte,
volontairement,
mais on pourrait passer avec le temps. Et quand Léo Ferré compose, on a toujours ces espèces de successions où il y a une ligne descendante, que ce soit à l'orchestre, que ce soit à la mélodie, et on s'aperçoit qu'il y a une espèce d'amertume dans les mots, ou de drame
et
qui est en train de se jouer.
Suit.
La musique suit, se joue chaque fois. Alors je me rappelle une fois, c'est ton style qui m'y fait penser, c'est qu'un jour j'étais dans un jury, et puis on était avec Jacques Charpentreau, le poète, et il y avait une fille qui disait « Oui, mais alors c'est pas à propos de Ferré, c'était d'un autre », elle disait « Oui, avec ce compositeur, c'est un peu toujours pareil ». Et Jacques Charpentreau, du haut de sa sagesse, avait dit « Oui, oui, mademoiselle, vous avez tout à fait raison, c'est même ce qu'on appelle un style ». Et je pense que pour Ferré, c'est important parce que c'est pas simplement un procédé, c'est pas simplement une manie, des clichés, une habitude, tout ce qu'on veut. Il y a véritablement la recherche d'un style, et dans ces différentes partitions, et quand on regarde l'écriture qu'il a faite alors sur ces 40 portées, il y a véritablement un style.
Gérard Rotelin, on va écouter le début de Requiem. Juste un petit mot pour que nous le situions. Dites-nous pourquoi ce Requiem-là et ce que ça représente pour vous musicalement.
Musicalement, c'est très important parce que jusque-là, il écrit écrivait des mélodies, c'est lui qui inventait donc ce qu'il chantait. Et puis il avait un orchestrateur qui était Jean-Michel Desfailles, un homme d'immense talent et qui a fait des choses merveilleuses. Vous évoquiez tout à l'heure les chansons de la première période. C'est vrai que les orchestrations, on les a encore dans la tête. Et puis un jour, il a voulu, parce qu'il était compositeur, il s'est dit non, il faut que moi-même je puisse écrire mes musiques. Et Requiem est une des premières partitions, une des premières pièces qu'il a faites. Avec un gros drame, c'est qu'il venait de se séparer de son éditeur, Barclay, et qu'il était encore sous contrat pendant un certain temps, et qu'il n'a pas pu chanter ses propres chansons. Donc, il a fait deux choses. Un, il en a enregistré uniquement la version orchestrale qu'on a dans un disque qui s'appelle Faire et Muet. Alors, c'est passionnant d'écouter cette version orchestrale et la version chantée. Et puis, surtout, on a une autre version qu'il a confiée à Pierre Colombo, une chanteuse extraordinaire à l'époque, qui a chanté ses chansons là aussi.
Et qu'il a beaucoup remercié d'ailleurs, parce que ça a beaucoup aidé.
Voilà,
alors, on écoute donc un extrait de Requiem, le début de Léo Ferré.
Pour ce rythme inférieur dont informe la mort, pour ce chagrin du temps en 625 lignes, pour le bateau tranquille et qui se meurt de port, ce mouchoir à qui tes larmes font des signes. Pour ce rythme inférieur dont informe la mort, pour ce chagrin du temps, pour le bateau tranquille et qui se meurt de port, pour ce mouchoir à qui tes larmes font des signes. Pour le cheval enfant qui n'ira pas bien loin, pour le mouton gracieux, le couteau dans le rouge, pour l'oiseau descendu qui te tient par la main, désarmé devant l'arme qui bouge.
Léo Ferré, donc le début de ce Requiem de Léo Ferré, Gérard Hotelin. Alors là, on est passé, il y a des choses intéressantes parce que nous sommes donc en direct au Salon du Livre. Tout à l'heure, à ma place, il y avait Hélène Azéra qui enregistrait une émission autour du slam. Et c'est tout à fait amusant de voir que Ferré, il est dans des zones vocales où il joue avec tout, y compris ce qui pourrait ressembler à du slam, parfois, d'ailleurs.
De toute façon, cette chanson récuillée... Enfin, cette chanson... Ce poème épique, ce chant épique, je ne sais pas comment il faut dire, parce que c'est pas une chanson au sens traditionnel qui tient en 2 minutes 30 sur la face d'un ancien 78 tours. C'est un résumé de la manière dont Léo Ferré compose. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très strict, de très établi, de très construit, mais où en même temps, on a un petit peu tout. Alors, d'abord, on a cette grande masse orchestrale que Léo Ferré chérissait par-dessus tout. Moi, j'ai eu la chance, vous l'avez peut-être vu aussi, quand il était au Palais des Congrès, dirigeant ce concert, c'était un
vous,
moment...
Vous, c'est Jocelyne Sauvard, hein, qui a tout vu, tout entendu, il était partout.
C'était extraordinaire, quoi.
Extraordinaire. Voilà. Les critiques l'ont massacré, certains, d'autres l'ont porté au nu, mais le public n'y s'est pas trompé. Il l'a ovationné un quart d'heure debout, tous les soirs, pendant deux mois.
Et donc, c'est vrai que là, il y a cette masse orchestrale qui, pour lui, est très importante parce qu'il est immergé dedans, il est complètement dedans. Et en même temps, alors avec la rigueur de l'orchestre, c'est-à-dire que c'est très mesuré, il y a une carrure, c'est des mesures à quatre temps, et jusqu'à la fin, ça se déroule de manière imperturbable. Et quand il parle ou quand il chante, il est complètement en dehors de cette mesure. Il est avec une liberté à la fois mélodique et à la fois de proférer son verbe, qui est justement une vie totale. Alors, par moment il chante, par moment c'est... vous parliez de slam, vous parliez de... On est effectivement dans le texte qui est donné à d'autres, qui est la poésie sonore finalement. Un peu tout ce grand mouvement qui remonte à plus d'un siècle déjà, et où il y a une continuité avec tout ça. Alors, ce qui est musicalement et passionnant, c'est que d'un certain côté, la véritable mélodie, elle est à l'orchestre.
Ouais.
Et par contre, c'est une contre-mélodie qui est ou chantée ou qui est proclamée, qui est proférée. C'est
le contrairement à la chanson traditionnelle où la mélodie est dans la voix.
Et c'est là où il y a quelque chose d'extrêmement nouveau, parce que c'est pas simplement... Alors, vous évoquiez le slam. On pourrait mettre d'autres noms des gens qui sont aujourd'hui très célèbres, Frédéric Nefcher-Illian ou des gens comme Loïc Lantoine ou quelques autres. Mais là, c'est du texte même qui est proclamé. Qui est proclamé avec un accompagnement. Mais par contre, là, il y a véritablement autre chose. C'est-à-dire qu'il y a le texte est proféré et il y a la mélodie qui est chantée. Alors ça se suit d'abord avec le violoncelle qu'on entend parce que c'est très grave. Ensuite, on entendra les flûtes. Si on était allé jusqu'au bout, on entendrait les clarinettes, on entendrait les violons, plein d'autres instruments. Et chaque fois, avec un motif mélodique différent. Et tout ça sur une carrure bien déterminée. Et puis, le texte se déroule et proféré comme le verbe...
Mais cette espèce de capacité à être dans le verbe et à fusionner avec la musique, il l'avait aussi au tout début de ce qu'on a entendu dans Egmont, avec la musique de Beethoven, ça fonctionnait aussi bien.
Mais complètement. Ouais. Et je crois que là, c'est une grande tradition ancienne, quoi, hein, de retour à cette force du mot et de ne pas simplement se diluer dans une espèce de mélodies sirupeuses ou
quelles sont ses influences musicales les plus fortes pour vous, Gérard Hotelin?
Ben, je pense que pour lui, d'abord, il y a Beethoven. Beethoven, il y est revenu très souvent. Ça, c'est quelqu'un qui l'a profondément marqué. Alors ensuite, il y en a eu quelques autres, parce que justement, dans ce livre, la musique souvent me prend comme l'amour, il parle. Alors, il y a évidemment Richard Strauss, il y a Stravinsky, enfin, il les passe tous. Sur Stravinsky, d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que c'est l'Oiseau de Feu et du Sacre du Printemps, dont on sait les bagarres en 1913 que ça avait déclenché. Ça, c'est quelque chose. Et il dit, les recherches de Stravinsky ont vaincu bien souvent la barre de mesure dans ce qu'elle a de sclérosé et de bêtement académique. Et il continue, il ne sous-estime pas la mesure, mais il l'emploie à toutes ses humeurs, il en change, il y revient, il la malmène et la fatigue, tel un pêcheur qui travaille sa proie au bout de sa canne.
Alors là, on pourrait s'arrêter quand même sur Léo Ferré, musicologue, parce que c'est un texte poétique ce qu'il écrit là, pour décrire la musique.
Hein. Quand il parle de manière poétique. Ouais. Et quand il écrit, bien sûr, aussi, quoi. Hein. Et... C'est un peu son génie d'ailleurs de ne pas se mettre dans des affaires très académiques, mais au contraire d'y aller avec toute la fougue. Et alors après, quand il parle évidemment de Ravel, alors ça c'est, il est débordant. Alors Ravel pour lui est quand même le...
Qu'il a rencontré, enfin qu'il a vu, nous disait Jocelyne Sauvard hein, tout à l'heure.
Ouais. Qui est quand même le grand maître quoi.
Le grand maître.
Et notamment si on avait le temps d'écouter Daphnis et Chloé, on retrouverait dans cette musique tout ce qu'on a entendu déjà depuis le début et tout ce qu'on pourrait encore entendre de Léo Ferré. Pas du tout traité de la même manière, bien sûr, mais on est vraiment dans une parenté très très forte.
On pourrait peut-être, avant que nous l'écoutions, parler d'une parenté avec deux autres compositeurs sur le même, parce qu'on a fait, Olivier Guérin, notre orchestrateur radiophonique, a fait un petit montage du même texte de Verlaine Green, donc mis en musique par Fauré, par Debussy et par Ferré, et peut-être, Gérard Hotelin, vous pourriez nous faire une petite analyse des trois, hein, avant que nous les écoutions comme ça, puisque c'est l'intégralité du poème, mais avec trois compositeurs, vous allez l'entendre, et trois interprètes.
Alors, de toute façon, ce sont trois compositeurs, ce sont deux compositeurs, pour lesquels il avait une très grande vénération. Hein. Alors, le problème, c'est que là, c'était encore une orchestration de Jean-Michel Desfailles, oui. Avec lequel il a travaillé et à qui on doit les airs les plus célèbres. Il y en a toute une, enfin, toutes les chansons par lesquelles Léo Ferré a établi sa réputation, on le doit à ce tandem-là. Et puis, il s'est séparé, comme on le disait, pour une raison qui était parce qu'il voulait faire ses compositions. Alors, ce qui est quand même très différent, si vous voulez, c'est la manière dont les musicologues s'en saisissent aujourd'hui. C'est très intéressant d'écouter dans certaines émissions de radio, par exemple, on met dans un certain rayon, j'allais dire, les mélodies, on ne dit pas les chansons d'ailleurs, les mélodies de Debussy et de Fauré, et puis on met dans le rayon chanson ce qu'a fait, parce que il y a effectivement
Ferré, vous voulez dire.
De Ferré, je veux dire, parce que il y a une liberté qui est prise dans la manière de chanter qui est typique même de la chanson et qui n'est pas l'art de la mélodie tel qu'on l'enseigne et tel qu'on doit le faire.
Alors on va écouter donc ce poème en entier, mais avec trois compositions différentes.
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches. Et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux.
Restituer Léo Ferré dans une généalogie de compositeurs, en réparant peut-être un petit peu de la non-reconnaissance qu'il a eue à cet égard. C'était donc François Leroux qui chantait ce Green de Verlaine, mis en musique par Fauré, accompagné par Jeff Cohen. Ensuite, c'était Debussy, le même poème de Verlaine, Nathalie Stutzmann, très grande chanteuse, avec une très grande pianiste, Catherine Collard. Et puis Léo Ferré dans ses œuvres. Et là, d'ailleurs, il est beaucoup moins debussiste que quand on écoutait tout à l'heure la chanson du mal-aimé Gérard Hautelin.
Absolument. Et c'est pour ça que dire que d'un compositeur, d'un musicien comme Ferré, c'est un peu toujours la même chose, c'est pas supportable. Et ça ne soutient pas l'analyse critique, parce que ça n'est pas vrai, quoi.
Alors, comme nous sommes en direct dans ces vendredis de la musique du Salon du Livre, il nous fallait du mot, du verbe, de la poésie à l'état pur, et je me tourne vers le comédien qui a bien voulu être avec nous, Emmanuel Depoix, parce que nous voudrions, si vous le voulez bien, entendre du Ferré, mais entendre du texte pur, simplement, sans la musique, enfin, avec la musique des vers, mais sans la musique et les instruments.
Et donc, je ne vais pas te raconter comment et pourquoi j'écris des chansons, c'est comme ça, ma main posée sur le clavier de mon piano, et reliée à un fil et ça marche. Je suis dicté. J'ai un magnétophone dans le désespoir qui me ronge, qui tourne et qui n'arrête pas. Alors je copie cette voix, qui m'arrive de là-bas, je ne sais pas, mais en tout cas qui m'arrive, et je la reconnais à chaque fois. Je suis le porte-parole d'un monde perdu, présent pour moi. Un monde dans lequel vous n'avez pas entré parce que si tu y entres dans ce monde, tu perds pied. Tu deviens inédit. Tes poumons, ton foie, ton sexe, c'est à toi. Ta tête, non. Enfin, si t'es folle, alors... La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment on la rime aux portes, justesse. Il pleure de mon firmament des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller au doigt du sable, de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là, avec ses poumons de flanelle, quand il pleure de ces temps-là le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument oh. L'ange des plaisirs perdus aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis avec ses pâleurs de rescousse et le squale des paradis dans le milieu mouillé de mousse revient, fille verte des fjords, revient violon des violonnades dans le port fanfare les corps pour le retour des camarades haut, parfum rare des salons dans le poivre-feu des gerçures, quand j'allais, géométrisant mon âme, au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul, poissé dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen. Les coquillages figurant sur les sunlights cassés liquides jouent de la castagnette tant qu'on dirait l'Espagne livide, dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure. Quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure, et je voyais ce qu'on pressent, quand on pressent l'entrevoyure, entre les persiennes du sang, et que les globules figurent une mathématique bleue, dans cette mer jamais étale, d'où me remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arcopin où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui meuglent, cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème, et, sous mon maquillage roux, s'en vient battre comme une porte, cette rumeur qui va debout dans la rue, aux musiques mortes, c'est fini la mer, c'est fini. Sur la plage, le sable belle, comme des moutons d'infini, quand la mer bergère m'appelle.
Merci infiniment. Bon, voilà, je suis sous l'effet de ce texte magnifique et je me disais en l'écoutant que ce texte existe tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être très peu de chanteurs, même dans ceux qu'on peut aimer infiniment, je pense à Barbara, je pense à Brel, dont les textes existent comme ça tout seul, sans la voix du créateur, sans la musique. Gérard Rotelin, je vous en prie, Emmanuel.
C'est un immense poète. C'est quelqu'un qui est complètement mal connu parce qu'il y a un problème entre l'homme et l'artiste. Et je pense que maintenant, il faut arrêter de s'occuper de l'homme, puisque l'homme est parti il y a maintenant plus pratiquement 20 ans, et c'est l'œuvre qui compte. Et si on veut bien revenir à l'œuvre, on va enfin découvrir que c'est un homme essentiel pour la musique. Je suis musicien. Pour la poésie, pour ses mots. Il est immense. C'est le plus grand compositeur, interprète, auteur de chansons françaises du XXe siècle. J'en suis convaincu.
Emmanuel Depoix, nous vous suivons... Gérard Rotelin, vous voulez...
Je voudrais vous remercier parce que dans ce que vous avez lu, finalement, on est véritablement dans la musique et dans le rythme. Et non pas dans le rythme qui est la division algébrique, noir, croche, double croche, etc. Mais dans le rythme, comme dit c'est Henri Michonik dans son livre La critique du rythme, où il dit le rythme, c'est d'abord le flot, ça vient du grec, règne, couler. C'est pas l'aller-retour, c'est pas le battement, c'est le flot, c'est ce qui coule. Et le rythme, c'est le souffle.
Bien sûr.
Et la manière dont vous l'avez chanté, peut-être, je sais pas, Loïc Jean-Antoine dirait que il fait de la chanson non chantée. Là, je crois que c'est aussi du chant non chanté, non mélodié. Mais c'est véritablement du chant, c'est véritablement du rythme. On est bien dans la poésie. Et c'est ce qui est magnifique chez lui. Et quand vous déclarez votre admiration pour lui, je crois que c'est sur ces terrains-là qu'il faut véritablement l'écouter et le comprendre. Et non pas sur des questions académiques, de savoir si on est dans le solfège, pas dans le solfège. Et quand il étudie, par exemple, toujours dans ses émissions radiophoniques, quand il parle de Stravinsky, il dit très bien que Stravinsky, lui, il était au-delà de la mesure. On n'est pas dans le métronome ou dans la boîte à rythme. Et on est ailleurs, mais on est dans le rythme et on est dans la précision. Et l'orchestre, lui, assure rythmiquement la scansion et la pulsation, mais c'est ce qui donne une liberté au verbe qui peut être proféré, comme vous venez de le faire. Et on reconstruit derrière ce qu'on a entendu de votre proclamation, on reconstruit, nous, toute une musique, tout un environnement sonore. Merci.
Alors, il y a une dimension aussi qui est très importante quand on lit ces déclarations, qu'on écoute toutes les archives qu'on peut avoir de Léo Ferré parlant, c'est de la fonction aussi pour lui de transmission de la poésie et comment la musique permet de mettre la poésie dans les jukebox. Je crois que c'est une expression à lui, Jocelyne Sauvard.
Oui, tout à fait. Mais je voulais ajouter à ce qu'a dit Emmanuel Depoix, c'est aussi le musicien et le poète du 21e siècle, parce que sa musique et son œuvre et sa poésie n'est pas morte. Alors, bien sûr, on n'a plus l'homme, on n'a plus la voix de l'homme, mais on a tous les enregistrements. Cette voix qui était tellement multiple qu'elle allait du chuchotement au cri, en passant par l'invective, en passant par la voix du rhéteur, du juriste, du poète et de celui qui explique ce qu'est la syntaxe. Enfin, toutes les voix, la voix de l'amant, la voix tendre, la voix de la berceuse, la voix du tango, etc. Quand il met les corbeaux en musique, les corbeaux de Rimbaud en musique, il fait un tango. Les chers corbeaux délicieux sont sur un tango, et en fait ce tango est d'une violence inouïe. Il a toutes ses voix, il a tous ses phrasés, et il a cette œuvre extraordinaire qui nous manque tant aujourd'hui, parce qu'il nous apprenait quand même à penser, faut le dire, et qu'on aurait bien besoin de lui pour savoir un petit peu comment notre monde va aujourd'hui, parce que comme il avait un côté voyant comme Rimbaud, il avait tout de même prévu un petit peu ce qui nous arrive sur le coin de la figure, toute cette mondialisation, tout ce problème avec l'argent, avec le travail, et il est important qu'aujourd'hui on écoute sa musique, mais on écoute aussi sa parole proférée par l'un ou par l'autre ou par lui.
Est-ce que à travers les années ça s'est véritablement construit cela, cette espèce de jeu avec la voix, parce qu'au début dans les années 60 c'est un Ferré plus chanteur au sens traditionnel, comment ça s'est passé ça?
Non, ça s'est construit depuis le début, sa voix a été sa sauvegarde, il l'a dit, ma voix m'a sauvée, parce qu'il avait une tessiture immense et qu'il a pu donc pratiquer toutes les sortes de voix, de même qu'il a pratiqué tous les registres de la langue, de l'argot à la langue la plus châtiée. Et donc ça s'est construit, mais depuis le début, vraiment, la voix c'était quelque chose d'extrêmement travaillé chez lui, y compris quand il annonçait ses poèmes ou ses chansons ou les poèmes des grands poètes. Et il avait une façon fraternelle de nous parler à nos publics, mais qui était également travaillée et qui sortait naturelle. Et donc je crois que la voix, les phrasés.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez parler qu'est-ce que vous vouliez dire de ce rapport au public, de cette adresse au public?
Ah, cette adresse au public, c'était parfois de l'invective, mais bien souvent c'était fraternel, c'était aimant, et cette voix qui s'adressait comme ça à nous, avec intimité, le regard de côté, comme ça sur le micro, les mains sur le piano, et le public était là, et lui, il était rivé à son piano, son piano faisait partie de son corps. Et son corps étant très très présent, son corps d'homme de scène et ses mains d'homme de scène, et le rapport avec ce public s'établissait comme ça sur le côté, et donc il y avait une intimité extraordinaire, et cette voix qui nous portait et qui nous porte encore quand on écoute les enregistrements. Mais ça, c'était travaillé aussi, je veux dire, c'était pas improvisé, les choses étaient faites, étaient dites, parce que c'était un grand artiste et qu'il ne laissait rien au hasard.
Gérard Rotelin, quel rapport vous voyez-vous entre ce poète, ce compositeur et cet homme de scène?
Il a été très critiqué dans sa manière de diriger l'orchestre, par exemple. Les compositeurs, les musicologues classiques disaient, il a des bâtons, des bouts de bois dans les mains, etc. Et moi, j'ai eu la chance de le voir au Palais des Congrès dans toute cette série de concerts qu'il avait fait, et notamment avec Daga Schatz, qui jouait le concerto pour la main gauche. Et c'était extraordinaire, c'était assez extraordinaire, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on n'avait plus seulement un chef d'orchestre, on n'avait pas seulement un chanteur, on n'avait pas seulement un diseur. Il se passait quelque chose, une osmose complètement différente sur scène, où on assistait véritablement, si le mot oratorio a un sens, je crois que là ça prend complètement place ici, parce que moi je sais que personnellement, alors c'est mon histoire personnelle, si j'ai découvert la poésie, c'est grâce à lui et non pas, vous évoquiez tout à l'heure sa scolarité avec
les frères des écoles chrétiennes.
Je peux dire que même dans un lycée, quand j'ai fait mes études secondaires, la poésie pour moi s'arrêtait à Lamartine, dans ce qu'on nous enseignait, et que j'ai découvert la poésie, est-ce que c'était le sens du mot, du verbe proféré, à travers des gens comme Léo Ferré.
Les journalistes, les spécialistes, comme il disait si bien avec Cosimo, haïssaient ça, qu'on touche à Rimbaud, qu'on touche à Verlaine. Aujourd'hui c'est commun, mais à l'époque, quand il a fait ce disque qui est admirable, et moi effectivement, si j'avais pas écouté Ferré chanter Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, j'aurais jamais autant lu Verlaine, Rimbaud, Baudelaire. Mais il avait proposé ça à Piaf, les chansons de Baudelaire. Elle a dit, je refuse que vous fassiez de la publicité sur le dos de Baudelaire, on ne touche pas à Baudelaire.
Et je crois que le texte qui en parle le mieux, c'est Préface.
Oui, Préface.
C'est Préface, qui est à la fois un texte qu'il a eu l'audace de, je n'irai pas de mettre en musique, mais en même temps de proclamer sur une musique.
La poésie contemporaine ne chante plus.
Et il le dit très bien, les poètes qui comptent sur leurs doigts pour savoir s'ils ont nombre de pieds, qui font leur compte devant les alexandrins, ce ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes.
Quand il dit dactylographe, il était très critique sur les paroliers de son époque. Très critique.
Justement, mais il faut. Il faut lire Préface, ou il faut l'écouter Préface, qui est encore mieux. Il faut prendre l'enregistrement.
Ouais. Alors, on est pratiquement au terme de ce moment passé ensemble, donc au Salon du Livre, en direct, pour parler de Léo Ferré. Alors, je rappelle donc les livres, puisque nous sommes au Salon du Livre. Donc, votre livre, Jocelyne Sauvard, Léo Ferré, un artiste vit toujours demain. Après, là, il va sortir ces jours-ci.
Et voilà, exactement, il est tout chaud.
Voilà, et puis, je disais tout frais, mais il est tout chaud, c'est mieux. Et puis, Gérard Rotelin, le livre de Léo Ferré, là, que je vous vole deux secondes. Donc, Léo Ferré, la musique souvent me prend comme l'amour. Donc, dans les éditions La Mémoire et la Mer, c'est son fils, Mathieu qui s'occupe de faire vivre cette œuvre. Il y a beaucoup à faire, puisqu'il y a beaucoup d'éléments d'écrit et de musique. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, écouter Léo Ferré, les disques, le retrouver ou le trouver, peut-être, aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir partagé votre amour de Léo Ferré avec nous.
Dans un vieux phono d'Aristo, un phono d'avant le magnéto, j'ai passé ma tête de loup, à peau de pilou et pas pour des clous. Car au beau milieu du concert, à côté d'une valse à Schubert, un saxo costaud, le dièse à l'air, montrait ce qu'il avait de plus cher. La zizique à poil, c'est fatal, ça colle à la peau, mes agneaux. Et l'instrumento qui n'est pas manchot, ça vous passe la main sur le genre humain. En deux coups de marteau, v'là le piano qui vous hypercute en clé d'ute. La zizique que ça t'agrippe et te pique toutes tes lippes. Dans une vieille machine à zinzin, une machine à Queen et le refrain, j'ai laissé mon Tchaïkovski et patati, ma quinzaine aussi. Lorsqu'au beau milieu d'interview, derrière une romance à dessous, un batteur patent, tambour battant, battait dans mon palpitant. La zizique à poil, c'est fatal, ça colle à la peau, mes agneaux. Que ça soit à Pékin ou à Saint-Glinglin, ou bien je ne sais où, d'ailleurs on s'en fout. En deux coups de chorus, la Vénus qui vous met le starter à l'envers. La zizique, ça t'agrippe et te pique toutes tes lippes. Dans un vieux bastringue à tanguer des fringues et des pieds, j'ai planqué la mer calmée et j'ai dansé sur celle de traînée. Lorsque au milieu de la coda, sans savoir comment ni pourquoi, un foxtrot trottant trottait content, perdant son la et son temps. La zizique à poil dans un bal, on n'y voit que la peau, mes agneaux. Clapeau et les os qui jouent du xylo, faut bien faire du tam-tam, c'est dans le programme. En deux coups de gratis, là le gratteur qui vous gratte ici ou ailleurs. La zizique, ça t'agrippe et te pique toutes tes lippes. dans une vieille rengaine à Rumba, une rengaine à Guénéaba. J'ai retrouvé mes belles années, celles qu'on comptait jamais. Lorsqu'au beau mi-temps de la chanson, derrière un accord de diron, tout s'est arrêté, j'ai tout paumé, je peux plus finir mon couplet. La zizi capoil, c'est câlin, même si t'as du poil dans la main. Ta razine boum boum, ça va faire un boum, même si les frangins trouvent que je vais pas bien. Y a qu'une seule façon, mon mignon, de trouver la fin du refrain. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule.
Voilà, ce vendredi de la musique en direct du Salon du Livre se termine avec cette ode à la musique de Léo Ferré. Cette émission a été mixée par Aveline Carmois, Benjamin Chauvin, Tanguy Le Cornet et notre chef d'orchestre, notre réalisateur, Olivier Guérin.
France Culture, comme chaque année, installe ses micros au Salon du Livre. Et dès ce jeudi, vous pourrez y rencontrer les producteurs et productrices de la chaîne ainsi que vos auteurs préférés. France Culture, en direct du Salon du Livre dès jeudi 25 et jusqu'à mercredi 31 mars. Tout savoir, tout écouter, franceculture.com.
Voilà, je laisse ma place au sens strict du terme à Toufik Hakem. Toufik, je m'en vais.
Merci Jeanne-Martine. Vous pouvez rester avec nous, vous n'avez que des fans autour de vous, entre autres Hélène Georges. C'est à plus d'un titre et en direct et en public du Salon du Livre.
À plus d'un titre, le rendez-vous quotidien de l'actualité des livres. Première partie, Toufik Hakem.
À plus d'un titre, c'est tous les jours entre 16h et 17h sur France Culture pour parler de l'actualité des livres. Et le vendredi, c'est l'actualité de la bande dessinée avec aujourd'hui en première partie Lisa Mandel pour HP de Paringo qui lui a accepté de venir. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
En deuxième partie, l'actualité des revues avec Jacques Munier. Aujourd'hui, un spécial Haïti, la revue Haïti avec Louis-Philippe d'Alembert et Nathalie Fiesman. Donc, Lisa Mandel publie une nouvelle série chez l'association HP. Le premier album a pour sous-titre « Asile d'aliénés ». Ce n'est pas « Vol au-dessous ou au-dessus d'un nid de foufou » version marseillaise. C'est beaucoup plus dément que ça, si j'ose dire, puisque c'est une chronique de ces lieux qui sont aussi secrets et aussi clos que les prisons, les hôpitaux psychiatriques. Donc, effectivement, on connaît un peu votre style maintenant, Lisa Mandel. Il y a toujours de l'humour, il y a toujours de la légèreté, mais très souvent c'est très grave. Donc de l'humour, ok, mais à tous les degrés et de toutes les couleurs. Mais c'est d'abord une BD de témoignage, Lisa Mandel, puisque vous avez grandi en entendant des récits drôles ou effrayants, ou les deux en même temps, que vous racontez votre mère et votre beau-père, infirmier en hôpital psychiatrique. Et donc dans ce premier tome d'une trilogie, je crois, vous avez décidé.
Au moins, je pense que ça en aura peut-être même plus. Hein.
Dans ce premier tome de cette trilogie consacrée aux hôpitaux psychiatriques, vous revenez sur les pratiques effrayantes qu'on utilisait dans les années 60. Ce sont les témoignages de vos parents et des amis de vos parents qui vous ont nourri pour cette bande dessinée.
Oui, exactement. En fait, donc eux étaient élèves. Donc, tout jeune diplômé au début des années 70, enfin fin années 60 et début 70, et ils ont assisté en fait à la transition qui fait qu'on est passé de l'asile d'aliénés à la psychiatrie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et eux, ils sont à la fin d'une époque et ils ont pu être témoins impuissants et souvent pas du tout complaisants de pratiques qui existaient encore et qui ont encore perduré et qui étaient quand même sur la fin. C'était vraiment une autre époque, quoi. Voilà.
Et vous avez grandi avec ces histoires, Lisa Mandel, vraiment?
Non, moi j'ai grandi avec les histoires plutôt des années 80, parce que je suis quand même un petit peu plus jeune que ça. Mais j'ai grandi avec, oui, des histoires de fous et des histoires... ma mère est un grand talent de conteuse, donc elle a rendu ses récits assez fascinants. Et c'est ce qui a fait que, une fois adulte, j'ai eu l'envie de raconter toutes ces histoires que j'entendais enfant, sauf que une fois que je me suis attaquée au sujet, je me suis rendu compte que je pouvais pas simplement prendre des anecdotes et les resservir parce que ça avait d'abord un côté assez voyeur et ensuite parce que ça allait beaucoup plus loin que ça. Derrière l'absurde, derrière la drôlerie, il y a beaucoup beaucoup de douleur et c'est cette douleur là qui en fait ressortit quand ils ont commencé à me raconter les choses telles qu'elles se sont réellement passées.
Beaucoup de douleur des patients, mais aussi
des infirmiers.
Des infirmiers.
Ah oui, oui. Et puis d'abord, les infirmiers psychiatriques ont quand même assez mauvaise réputation, alors que évidemment, ils sont pas tous pourris et ils sont aussi aux prises avec un système qui ne peuvent pas contrôler. Ils sont souvent prisonniers de réactions qu'on peut qualifier de fascistes, parce que ils ont pas le choix. Donc il y a aussi tout ça. C'est eux comment ils ont subi et laissé faire des choses. Qui paraissent insupportables.
Non mais c'est incroyable parce que c'est un véritable reportage, parce que ce que vous nous racontez là, Lisa Mandel, c'est que les infirmiers dans un hôpital psychiatrique, c'est un peu l'équivalent des matons, des gardiens dans une prison.
À cette époque, tout à fait. Ça a quand même changé au fur et à mesure des années, mais il y a 30 ans, il y a 40 ans, on prenait les infirmiers à la taille de leurs biceps. C'est pas du tout sur des diplômes. Et on leur demandait, la société, en fait, ne voulait pas de ces fous. On leur demandait de prendre les fous, de les garder, de les punir et de les séquestrer pour que la société n'ait plus à s'en préoccuper. Et c'était ça qu'on